Fréquence Mistral et le théâtre La Passerelle à Gap.
Eh bien donc, chères auditrices et auditeurs, je suis aujourd'hui avec Denis Darzac à l'entresort ici au théâtre La Passerelle à Gap. Denis, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes photographe français, vous êtes membre de l'agence Vue depuis 1997. Vous avez un sacré pédigré, vous m'avez dit hors micro que vous avez fait beaucoup d'expositions. Vous avez notamment par exemple exposé au musée Georges Pompidou à Paris ou au Fonds National d'Art Contemporain.
Alors au centre Georges Pompidou, ils ont acquis deux œuvres et c'était un accrochage collectif, c'était pas vraiment une exposition sur moi. Non, rassurez-vous, je ne suis pas d'une telle... Non. Mais c'est vrai que je depuis plus de 30 ans, je fais des images, mais pas que des images. Je fais aussi des sculptures, des installations vidéo. Et je suis ravi d'exposer ce nouveau travail, pas ce nouveau travail, mais d'exposer ce travail ici à La Passerelle.
Alors ce travail justement, c'est une série qui s'appelle Actes, et je crois reconnaître qu'il n'y a pas que des photographies de la série Actes, mais essentiellement. Comment est-ce que vous la présenteriez à nos auditrices et auditeurs avec vos propres mots ?
Alors, c'est une exposition assez courte, hein. Il y a 20 images, mais 20 grandes images, et elles sont issues de trois séries différentes. Acte 1, qui est une série sur des personnes en situation d'handicap, physique et mentaux, surtout mentaux. La seconde, c'est Acte 2, où ce sont les danseurs de l'opéra qui se sont inspirés de mes photographies de personnes en situation de handicap pour créer des figures dans l'espace public de la ville, en l'occurrence à Paris. Et la troisième série s'appelle Hyper. Ce sont des jeunes gens qui, en face de rouleaux de moquettes dans un mondial moquette, essayent, tel un produit de supermarché, à trouver leur équilibre face à ces rouleaux compresseurs de la consommation.
En regardant vos photographies, il y a un propos derrière, ça n'est pas que de l'esthétique, vous avez envie de raconter quelque chose. Quelle importance est-ce que vous donnez à la photographie dans les sujets de société ? Quelle place est-ce que vous avez envie que ça prenne ?
Alors c'est drôle ce que vous me disiez, parce que un jour comme ça, j'étais en Chine et puis j'étais en train de faire une conférence sur mon travail et puis il y a un monsieur chinois avec plein d'appareils photo très très beau, très très gros, qui me dit « Mais enfin, je ne comprends pas pourquoi vous nous montrez des photos comme ça alors que c'est si beau de regarder l'automne, les feuilles tomber sur un joli lac ». Je dis, c'est merveilleux de regarder un lac. Mais en l'occurrence, quand je regarde un lac avec des feuilles mortes, je ne fais pas grand-chose. Et je pense qu'être artiste, c'est agir pour faire des images qui ont du sens et ne pas simplement constater l'immense, la merveilleuse beauté de la nature. Je ne le reproche pas à ce monsieur d'avoir fait des photographies d'automne. Mais moi, ce n'est pas mon propos. Mon propos, effectivement, c'est un engagement politique, social, esthétique, au service d'une pensée. Et cette pensée, c'est transformer. En fait, comment ça fonctionne, ça veut dire quoi, trouver sa place dans le cadre. Parce que vous verrez, sur les 20 photos, il s'agit chaque fois d'une personne ou d'un couple qui essaye, dans un environnement, de trouver son équilibre.
Une question d'équilibre, il y a une question de mouvement aussi dans vos photographies.
Oui, un mouvement entre les auditeurs et vous, le mouvement entre moi et vous, le mouvement entre moi regardeur et la photo, le mouvement... En fait, c'est une volonté de ne pas être assigné à sa place et de prendre la liberté de faire son propre chemin, ses propres choix et son propre parcours. D'où l'idée de acte pour activisme, pour acteur de sa vie, et aussi pour action. Action, au fait, si on peut résumer la vie, on serait sur un échiquier de jeu d'échecs, et quand une pièce bouge, ben les autres sont obligés de bouger. Il ne s'agit pas de bouleverser, déranger les autres, il s'agit juste de trouver sa place et de trouver un équilibre harmonieux avec les autres. Et dans un monde d'images comme le nôtre, aujourd'hui, où les gens lisent de moins en moins, où ils sont tous complètement nubilés par les TikTok et Instagram, moi le premier, je pense que les images, il faut leur redonner aussi un statut, et un statut d'importance, et que surtout, elles sont polysémiques. Elles ont énormément de choses à nous raconter. Elles sont le fruit d'une pensée, et elles ne sont pas simplement elles ne sont pas prises. Elles sont regardées, choisies et décidées.
Alors justement, on sent qu'il y a un grand travail de mise en scène. Vous avez déjà expliqué beaucoup de choses, mais on sent qu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière ces images. Expliquez-nous un peu comment vous procédez pour faire toutes ces mises en scène-là.
Alors, je viens d'une photographie documentaire. D'abord, j'ai fait les Arts Déco à Paris. Et ensuite, j'ai commencé à faire des photos pour Libération, qui était à l'époque le grand journal de l'image. Puis après, Le Monde, Télérama, Les Inrecuptibles, enfin, un certain nombre de journaux de la presse nationale qui m'ont permis de payer mon loyer et aussi de me coltiner la réel, le réel très déformé d'être un photographe d'un grand journal quotidien. Mais par exemple, on vous envoyait photographier un ministre, il fallait 2 minutes pour sortir une image. Alors après, le soir même, on était au concert de Madonna backstage, c'était absolument génial comme époque. Mais toujours, il fallait sortir une image. Il fallait tout d'un coup s'imprégner du moment et essayer de faire image de ça. C'est une très belle école, une très belle leçon de vie. Et en fait, ce réel m'intéresse toujours énormément. Et donc, dans toutes ces images, il n'y a aucun Photoshop. Ce sont des photographies qui ont été faites totalement naturellement. Il n'y a pas d'éclairage particulier, à part l'éclairage réel de l'endroit où je me trouve. Et ce côté réaliste, c'est à peu près la seule chose. Parce que le reste, c'est un travail avec le modèle. Le modèle qui est ou un jeune, ou une personne en situation de handicap, ou un acteur, ou un danseur de l'opéra, et qui, avec son corps, va essayer d'exprimer un mouvement, une inquiétude, un questionnement, une interrogation. Pour moi, une bonne image est une image qui interroge et non pas qui donne une réponse. Je fais des images qui... Quand on les regarde, je pense qu'elle reste, enfin j'espère qu'elle va rester comme une espèce de questionnement sur qu'est-ce qu'il a voulu dire, c'est quoi l'enjeu de tout ça et qu'est-ce qui est représenté.
Alors là, du coup, dans cette série en particulier, est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez que les spectateurs et spectatrices se posent en regardant vos images ?
Bon, on l'a déjà parlé tout à l'heure, c'est l'idée d'être activiste, d'être propre acteur de sa vie. Être acteur de sa vie, c'est donc refuser d'être victime. Et pour cela, il y a 1000 façons d'être. C'est d'agir évidemment sans écraser les autres, mais prendre sa place avec humour, certitude et conviction. Voilà. Prendre sa place, c'est quoi ? C'est quand on est une personne en situation d'handicap mental. Ne pas être résigné à vivre dans un centre spécialisé, de s'autoriser à sortir, que les autres acceptent que des corps différents puissent être dans l'espace public parce qu'ils y ont droit, comme nous, d'occuper ces espaces. Et c'est en fait, en définitive, on pourrait faire une allégorie sur toutes les minorités. Toutes les minorités, qu'elles soient, alors beaucoup de jeunes de cité, hein, donc des minorités sociales, des minorités ethniques, des minorités sexuelles, des minorités physiques, des minorités psychiques. Toutes les minorités qui ont la vertu, en s'associant, de faire la diversité d'une société démocratique, qui, je vous rappelle, devient de plus en plus minoritaire sur Terre, et que nous obligeons, nous artistes, à réfléchir à cette question de l'individu dans la société et du respect de toutes les différences. L'ensemble de ces minorités ont leur place dans notre société démocratique. C'est par leur vie à leur côté que nos sociétés s'enrichissent.
Est-ce que vous aviez envie, en faisant cette exposition, en la proposant aujourd'hui à l'Entresort, de aussi proposer de donner à voir ces minorités-là et de leur redonner un espace ?
Évidemment. Tout à l'heure, j'en parlais, mais dans une société d'image, on n'existe pas si on n'a pas d'image. Et donc, une photographie qui fait 1m20 sur 1m80 d'une personne en situation de handicap dans un lieu muséal ou d'exposition ou dans un centre d'art, et non pas dans l'arrière-cour de l'hôpital de jour, près de la cafette, à 16h avec un jus d'orange. Voilà, c'est redonner une place à toutes les particularismes qui font la richesse de nos sociétés.
Je voulais revenir au travail avec les modèles. Vous avez expliqué tout à l'heure qu'il y a eu un travail en plusieurs parties, avec donc un travail avec des adultes qui sont en situation de handicap, et puis dans un deuxième temps, un travail avec des danseurs de l'Opéra de Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passé ce travail, déjà dans un premier temps, avec ces adultes en situation de handicap ?
En fait, c'est une concordance de circonstances. J'avais fait deux grandes séries qui s'appellent La Chute et Hyper, où c'était des jeunes gens bondissants d'une extrême dextérité, avec beaucoup de capacités physiques, et tout le monde disait « Ah oui, Denis fait sauter des gens qui sont... » Et en fait, ils ne comprenaient pas quel était mon vrai sujet, qui était de trouver sa place dans le cadre. Et donc, je suis allé à la recherche de ce qui pouvait être à l'opposé, finalement, d'un jeune brillant sportif qui saute comme il le souhaite, dans l'espace qu'il veut. Et de là, si vous voulez, m'est venu de faire un travail sur les personnes en situation de handicap. À l'époque, un de mes amis venait d'avoir Parkinson et en souffrait de façon tout à fait délétère. Et j'ai été donc pour la première fois confronté à cette question sur le corps qui change dans ma sphère privée, on va dire. Et donc, en Angleterre, j'ai rencontré, grâce à l'intermédiaire d'une amie, une troupe de théâtre de personnes en situation de handicap qui s'appelle Mind the Gap, qui se trouve à Bradford. Et alors, la particularité très intéressante, Bradford, c'est dans la banlieue de Leeds. C'est ici, en 1820, 1830, 1840, que se construisent les premiers grands moulins dans lesquels on va construire des tissus ou des couteaux ou de la porcelaine, etc. C'est le début de l'industrie capitaliste. Et au tournant du 19e et du 20e siècle, Bradford est la ville la plus riche d'Angleterre. Et il arrive la même chose à Roubaix, en France. Eh bien, Roubaix et Bradford sont aujourd'hui les deux villes les plus pauvres, l'une d'Angleterre, l'autre de France, parce que la ruine d'un certain type d'industrie. Et également, c'est leur endroit où s'invente le théâtre Mind the Gap à Bradford et l'Oiseau-Mouche à Roubaix, qui sont des théâtres de personnes en situation de handicap mental. C'est-à-dire que dans les pires des situations économiques, tout d'un coup, au milieu des cendres, sort une pépite. Celle qui va redonner de l'espoir, redonner peut-être quelque chose d'une réflexion sur nos sociétés démocratiques, sur qu'est-ce qu'une personne en situation de handicap peut nous apporter aux autres. Et c'est un peu le principe de la série Acte 2. Qu'est-ce qu'un corps handicapé peut inspirer un danseur de l'Opéra de Paris ? Et donc j'inverse la proposition, hein, cette idée que le corps le plus empêché devient un modèle pour un grand danseur. Et cette inversion de perspective nous permet de nous enrichir tous.
J'aimerais savoir aussi si vous avez rencontré des difficultés justement dans ces travaux, aussi bien, eh bien avec ces corps dits empêchés, avec ces personnes en situation de handicap, qu'après coup avec ces danseurs et danseuses.
Disons que le jour où j'ai fait ces photographies avec les danseurs de l'Opéra, le responsable de l'Opéra de Paris avait déjà été mis en difficulté parce qu'il avait peut-être pour la première fois autorisé lors d'un ballet Casse-Noisette, je crois, une danseuse qui était noire de ne pas se mettre de la poudre de riz pour paraître blanche. Et il a reçu des centaines, des milliers de lettres d'insultes en disant qu'il avait dénaturé le ballet classique, il avait dénaturé je ne sais quoi. Et donc quand je lui ai dit que les grands danseurs de l'opéra allaient s'être influencés, en tout cas s'inspirer des personnes en situation de handicap trisomique ou paralytique ou handicapées, il a été un peu réticent, puis après il a dit « allez, on y va ». Et ça a été super travail, parce que les danseurs de l'opéra ont très bien compris de quoi il s'agissait, puisque le langage du corps, c'est leur langage.
Est-ce que vous avez eu des retours suite aux premières fois que vous avez exposé ? Est-ce que vous aviez eu des retours vous-même sur ce travail ?
Oui. J'ai présenté Actes la première fois aux Rencontres d'Arles en 2012. J'ai fait un livre chez Actes Sud aussi. Et j'ai eu une très bonne presse. Ouais, ça s'est très bien passé. Si vous voulez, l'écueil, c'était de tomber dans la compassion et le misérabilisme. Et pour cela, je me souviens de ma mère qui me disait, quand on voyait une personne trisomique dans la rue, elle me disait « Oh, le pauvre garçon !» Et je me dis « Mais ben non, pourquoi pauvre ? Enfin, il a sa vie à mener, il est né, il va vivre, il va mourir, il a à faire l'expérience du monde. » Et dire pauvre, ça veut dire que ben nous, on est riches, contrairement à lui. C'est l'enfermer dans une situation qu'il n'a pas choisie et qui est la sienne. Est-ce que nous avons choisi d'être ce qu'on est ? Pas plus. Dans quel milieu on est né ? Pas plus. Notre sexualité ? Pas plus. Et donc, si vous voulez, cette idée d'essentialisation a été un truc très, très important, de ne pas faire geindre ou pleurnicher. Parce que quand on est acteur de sa vie, on ne fait pas pleurnicher, on ne fait pas geindre. Puis, surtout, c'est qu'on a sa propre vie à mener. On n'a pas besoin du regard des autres pour exister.
Alors, il y avait autre chose sur laquelle je voulais rebondir sur la suite de votre carrière, puisque vous l'avez évoqué très rapidement, mais cette série Acte et Acte 2, elle s'est terminée. Vous avez terminé ce travail en 2015. Et donc, ça commence à faire un petit moment. Ça fait déjà une dizaine d'années. Avec le recul, comment est-ce que vous voyez votre travail après toutes ces années ?
D'abord, je pense que ça se tient. Bon, alors, c'est un peu prétentieux de ma part. Ben, sinon, je ne le présenterai pas. Je pense que les images, elles sont encore là. Elles racontent toujours à peu près la même chose. Hein. C'est une espèce de mouvement. Et ce mouvement, il est aussi dans ma vie. Et j'aurais pu continuer à faire bondir des jeunes gens au milieu des habitations. Mais j'ai voulu toujours changer. Ben, je continue à changer. Alors, vous savez, la vie d'artiste, il y a des hauts et des bas. Je pense que je suis dans un moment beaucoup moins haut qu'il y a 10 ans ou 5 ans. Mais la vie continue et je ne vais rien au monde changer ce que je fais. Et ça me plaît beaucoup toujours d'expérimenter, d'aller au bout de mon expérience ici pour essayer d'embrasser au mieux mes envies, mes désirs et expérimenter le vivre ensemble. En fait, voilà.
Alors ça me permet de rebondir sur vos travaux actuels qui sont... Vous parliez du mouvement, on voit encore du mouvement dans vos travaux actuels, bien qu'il soit beaucoup plus abstrait finalement.
Oui, alors, comment dire ? Un jour, j'ai subi une inondation dans mon atelier et je me suis retrouvé avec des œuvres. Vous savez, les artistes, parfois, qui font des images, parfois on fait des tirages. Et puis, en regardant le tirage, qui est un petit peu grand, etc., on se dit « Ah, finalement, c'est pas si bien, je vais pas la garder, cette image. » Mais enfin, on va pas la jeter, donc on la garde. On la met dans un carton à dessin, il attend, elle vit sa vie. Et à un moment donné, pendant l'inondation, le carton à dessin, il est inondé. Et le moment où j'ai ouvert ce carton à dessin inondé, évidemment, les photos étaient toutes abîmées, mais pas entièrement abîmées. Et donc, une espèce de réflexe idiot, j'ai découpé au ciseau ou même déchiré à la main des morceaux qui n'étaient pas abîmés. Et j'ai refait des compositions abstraites dans le but premier qui était une réflexion plus générale sur l'image photographique. Une peinture abstraite, une sculpture abstraite ne représente plus quelque chose. Et donc, moi en plus, j'avais voulu essayer une réflexion sur une image qui ne représenterait pas quelque chose, mais qui présenterait quelque chose. Et donc, j'ai créé des compositions à partir de mes photos déchirées, qui sont des compositions abstraites, mais sur lesquelles la lumière joue. C'est-à-dire que ça a été fait à 10h27, avec ce nuage qui vient donner une ombre portée de la déchirure sur tel autre morceau. C'est toujours la vie, le mouvement. C'est jamais arrêté. C'est pas scanné, c'est pas figé. Mais j'aime bien cette idée que libérer la photographie d'un devoir d'informer, je trouve ça intéressant. Surtout qu'on l'a fait pendant 20 ans de la photographie pour la presse.
J'aimerais vous demander pour terminer si vous avez une photographie là dans cette exposition aujourd'hui qui est à l'entresort, si vous avez un tirage en particulier qui vous tient à cœur et pourquoi ?
En fait, ils me tiennent tous à cœur parce que d'abord, c'est toutes des expériences vécues. C'était aussi ça, hein, ça a eu lieu. Chaque photographie, c'est l'expérience d'un moment. C'est l'expérience d'une rencontre. Et comme j'ai dit souvent, comme je viens de la photographie documentaire, je ne peux pas faire image sans mon modèle. Parce que mon modèle amène son intelligence, sa compréhension du sujet, une force de proposition, et à moi de choisir. C'est-à-dire que je donne un contexte qui va être alors le musée de Brest, là, le jardin arboré à côté, la salle des mariages de la mairie de Brest, le moulin de David Hockney à Bradford. Voilà. Et là, je dis, voilà, on va faire des photos là. Puis après, je me tais. Et j'attends de voir. Et en fait, ce qui se passe souvent, j'avais vu ça parce que j'ai fait aussi un film qu'on aurait voulu projeter ici, mais qu'on n'a pas trouvé les moyens de le faire, qui s'appelle La visite du Louvre, avec 4 acteurs en personne en situation de handicap de la compagnie Mind the Gap de Bradford. Et à un moment donné, je me retrouve dans la salle de Mésopotamie. On l'a fait ce film en 2016-2017, l'époque où Daesh détruit Palmyre. Enfin bref, les obscurantistes religieux détruisent le passé, détruisent ce qui fonde même le socle de nos civilisations. Et pendant ce film, les 4 acteurs se sont mis à jouer à chat et à la souris au milieu des sculptures de Mésopotamie. 2 visions totalement à l'opposé. C'est-à-dire que oui, le musée vous accueille. Vous êtes comme vous êtes et vous êtes le bienvenu dans ce musée. Et vous avez le droit de faire ce que vous le souhaitez à partir du moment où vous ne dérangez pas, vous ne cassez pas les choses. Et aussi cette force qu'a une personne, en fait une personne en situation de handicap qui travaille dans une compagnie de théâtre, c'est un acteur. Ce n'est pas, comme dirait ma mère, le pauvre handicapé. C'est d'abord, elle s'appelle Lydie, elle est actrice, elle va jouer une pièce de théâtre demain, elle est crevée parce qu'elle a fait 4 heures de répétition, elle a très faim, elle est amoureuse de John, elle en a marre d'être prise en photo, elle a une vie, elle a une épaisseur, elle a une existence, elle a une personnalité, elle est elle-même. Et je me souviens de Alice qui, dans la salle de Mésopotamie, alors que je n'avais rien à dire, a commencé à faire une chorégraphie de danse. Parce que, par expérience et par travail, ils savent s'exprimer avec leur corps, parce qu'ils passent 5-6 heures par jour à faire des exercices physiques. Ce n'est pas donné à tout le monde d'improviser dans un musée comme le Louvre, à faire à peu près ce qu'on veut. Même moi, je ne serais pas forcément très capable de le faire. J'ai adoré cette expérience. Tout d'un coup, de pouvoir, avec son corps, danser la vie.
Si je comprends bien, chaque moment, chaque photo vous a apporté quelque chose à vous-même.
Absolument, bien sûr. C'est sur des rencontres, ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que d'ailleurs, parfois, je fais des choses à l'atelier. Parfois, c'est épuisant de rencontrer les autres. Et on a besoin de se ressourcer pour pouvoir revenir sur le terrain de jeu, on va dire. Parce qu'il faut être éveillé. Et l'expression physique d'un corps, quand il agit, il est rarement ridicule. Même quand il prend une pose ridicule comme Charlot ou comme Buster Keaton. D'ailleurs, c'est parce qu'il est ridicule. C'est parce qu'il occupe le cadre de façon extrêmement différente de nous qu'il nous fait rire. Parce qu'on se reconnaît dans sa façon maladroite.
Je pense qu'on va pouvoir conclure sur ces belles paroles, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose.
Bah, venez voir l'expo, il y a 20 photos, c'est pas immense. J'adore l'idée que le travail que fait la passerelle, de faire des expositions, d'inviter des gens, de proposer autre chose que des choses virtuelles. C'est très important de rencontrer, d'être face à une photo tirée, parce que c'est un encadrement, c'est une taille, c'est un format, c'est un rapport à l'œuvre, ce n'est pas quelque chose qu'on va défiler sur TikTok, c'est autre chose les images. Elles ont un poids, elles ont une existence, elles ont un sens.
Eh bien, merci beaucoup à Denis Darzac de nous avoir accordé ce temps. Et bien sûr, on invite les auditrices et auditeurs à venir voir l'exposition Actes à l'entresort à la passerelle. Merci.
Pré Fréquence Mistral et le théâtre La Passerelle à Gap.